était parti chez mes grands-parents. On avait fait, pour nous, c'était le grand voyage. Aller voir mes grands-parents à Metz, c'était le grand voyage. Hein. Depuis l'Italie, vous imaginez, c'était une expédition. Hein, une expédition. Et on est arrivé dans une période où il y avait la foire de mai. C'était au mois de mai. On avait loupé l'école. Pas grave. Hein? On y est arrivé quand même à apprendre à lire. Et je me rappelle qu'il y avait une attraction, c'était un labyrinthe avec des miroirs. Et donc, c'était un double défi. Le premier, c'était celui de trouver la sortie. Mais en même temps, ces miroirs étaient des miroirs déformants. Hein, c'est terrible. Hein. Alors, il y a des miroirs qui nous plaisent bien, ceux qui nous donnent ce qu'on aimerait voir. Et peut-être que le miroir d'après, il nous reflète une autre image. Et je me suis dit, c'est vrai que parfois, c'est un peu comme la vie. On se trouve dans un labyrinthe, on aimerait bien sortir d'un labyrinthe, plein de situations qui font qu'on se sent bloqué et en tous les cas, on n'a pas le choix. Il faut aller jusqu'au bout, il faut trouver la sortie. Et en même temps, plein de choses qui nous renvoient une image qui, parfois, elle est déformée. N'est-ce pas? Et c'est une réalité. Et je me dis, comment pouvons-nous véritablement sortir de cela? Alors, le texte que j'aimerais partager avec vous, et il y en aura plusieurs, c'est celui de Galates, chapitre 2, verset 20, dans la version seconde, si possible. Voilà. Version seconde. Galates, chapitre 2, verset 20, dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » On le relit ? C'est pas long comme texte, mais il y a tellement à méditer. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Quel merveilleux texte ! Une déclaration énorme. J'ai été crucifié avec Christ. En réalité, c'est le pas qui est celui de se donner au Seigneur, accepter quelque part de mourir avec le Seigneur pour finalement vivre comme le Seigneur attend de nous. Alors, je me suis rendu compte combien parfois de promesses non tenues, n'est-ce pas ? Quand je considère ce à quoi le Seigneur nous a appelés, la manière où les choses se passent, je me dis qu'il y a forcément un problème quelque part. Combien de fois nous nous engageons avec le Seigneur et nos engagements n'ont pas été honorés de notre part. Combien de fois nous avons chuté à cause de nos défauts et nous nous sommes aussi sentis tellement mal devant Dieu en pensant tout ce qu'il a fait pour nous. Et ça nous met dans un état de souffrance. Alors quand on lit des textes comme 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 qui dit « Grâce soit rendue à Dieu » qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. On peut se sentir mal à l'aise. On peut se dire, Seigneur, oui, j'aimerais, mais encore, j'y suis pas arrivé. Il y a un problème quelque part. Est-ce que nous sommes en train d'aller de progrès en progrès ? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, c'est ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Amen. Magnifique. Alors, où nous en sommes avec nos progrès ? Il y a encore à faire. Notre désir est d'aller de victoire en victoire, mais souvent c'est parsemé de beaucoup de défaites que l'ennemi, excusez-moi, s'amuse à nous placer devant les yeux dans le but de nous faire baisser les bras. Vous savez, l'effet miroir. C'est un peu cette volonté de nous, de nous, à quelque part, de nous arrêter, de nous faire perdre courage. Alors je me suis posé la question, et si on se trompait dans notre manière de faire ? Si on n'avait pas saisi complètement ce que Dieu nous demande ? Quand je considère ce que nous venons de partager, je me dis qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut pouvoir sortir de ce labyrinthe qui s'est transformé en un cauchemar, quelque part. Hein ? On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer et on est comme dans un entonnoir. On a beau faire tous nos efforts, on n'y arrive pas. C'est contraignant, c'est compliqué. Alors, en relisant le texte de Galates, chapitre 2, verset 20, on a la réponse. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parfois, dans notre manière de fonctionner, on continue à vivre notre vie. On est content, on a reçu le Seigneur dans notre cœur et on reprend nos habitudes. On reprend notre rythme de vie comme on a toujours fait. Certes, on essaie de mieux faire, on essaie de contrôler certaines choses dans notre vie, mais on se rend compte de nos limites, non ? On se rend compte vite qu'il y a quelque chose qui, en effet, nous empêche de faire mieux. J'ai déjà dit cette fameuse phrase que je trouvais souvent sur mes... Comment on appelle ça ? Les cahiers ? Peut mieux faire. Oh là là ! Hein, moi, ça ne correspondait pas. J'évitais. Je me suis rendu compte de combien, en réalité, dans notre vie de tous les jours, on peut mieux faire. Et alors, vous savez, aujourd'hui, dans les écoles, on dit qu'il faut enlever les notes parce que ça décourage. Sauf qu'à quel moment on va véritablement savoir où on en est ? Parce que, encore une fois, on peut avoir un miroir qui fausse la réalité. On peut avoir le sentiment d'avoir trouvé, en effet, la bonne forme. On est bien, tout va bien. Mais le jour où on sera devant le Seigneur, il n'y aura pas de miroir déformant. On sera tel qu'on est vraiment. Il n'y aura plus de masque. Ni celui-là, ni celui qui peut couvrir notre visage en donnant une image différente. Alors comment je dois faire ? Quelle est la transformation qui doit se produire dans ma vie ? Et la question, c'est qu'en réalité, tant que je suis perdant, tant que je vis par moi-même. Je m'obstine à vouloir montrer que je suis capable de changer. Et j'essaye de faire de mon mieux. Mais excusez-moi de vous dire cela, je n'y arriverai pas. Parce que là encore, il y a mes limites qui vont ressortir. Alors, y a-t-il une solution ? Bien évidemment. Et c'est de cela que j'aimerais ce soir vous parler et vous encourager parce que, comme dit, parfois on peut patiner pendant des années. Vous savez, ces tapis roulants où on marche et on n'avance pas. On est un peu comme un hamster en cage. Vous voyez l'image du hamster ? Et parfois, il accélère. Il veut aller encore plus vite. La seule chose qui peut arriver, c'est que s'il fait un faux pas, il commence à tourner en rond. Hein ? Et c'est ce qui nous arrive parfois. Alors, la réalité, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut qui change dans notre vie, même il faut une transformation radicale. Alors on va lire quelques textes de la parole de Dieu qui va nous encourager et qui va nous donner des pistes de réflexion, mais je voudrais dire même plus, certainement les directions pour sortir du labyrinthe et ne plus se laisser arrêter par des images déformées, parce qu'on va garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Le premier texte, il se trouve en Ésaïe, chapitre 61, à partir du verset 1 au verset 3. D'ailleurs, c'est cette parole que Jésus prononcera en premier, le jour où il rentrera dans un temple et on lui demandera dans une synagogue, on lui proposera de lire, il prendra le livre de Ésaïe. Et c'est cette parole, cette prophétie d'Ésaïe que Jésus est venu accomplir. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. En effet, Dieu le Père a envoyé son Fils pour qu'il nous donne quelque chose de nouveau et non pas pour nous rafistoler. Souvent, nous, on essaye de boucher les trous, de combler le vide dans notre vie. Hein? Parfois, il y a des expériences très difficiles dans notre vie. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui me disait, mais vous savez, moi, je n'ai pas eu un papa à la maison qui a pu me donner cette image, cet amour, mais aussi de savoir me dire ce que j'avais besoin d'entendre. Et je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. C'est une réalité. En même temps, on a besoin de dire, Seigneur, viens combler ce qui me manque. Combien de fois je me suis trouvé face à des personnes qui, elles aussi, elles ont vécu des choses très difficiles, abandonnées par la famille au complet. Ils n'ont jamais connu leur papa, leur maman. Et là encore, comment être un bon père, comment être une bonne maman pour ses propres enfants? Il dit, il y a quelque chose, il y a un exemple qui me manque. Comment je vais pouvoir faire? Et ces exemples-là, il y en a plusieurs et on pourrait chercher nous aussi quelque chose qui pourrait quelque part nous permettre d'expliquer ce qui nous manque et pourquoi ça nous manque. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est venu pour nous donner quelque chose de nouveau, pour venir changer notre vie. On l'a chanté, celui qui a changé ma vie. Et je dirais qu'à quelque part, nous avons besoin de ce changement, de cette transformation que seulement Dieu peut produire dans notre vie. Parce que par nous-mêmes, on ne pourra pas. Si en rentrant à la maison, vous coupez des tomates, vous les mettez dans votre assiette, elles sont bonnes les tomates, mais vous avez beau imaginer que vous êtes en train de manger une côte de veau, ça restera des... Désolé pour vous. Non ? C'est la réalité. On a beau fermer les yeux et faire semblant, mais le goût, c'est quoi ? Tomate. Et pas côte de veau. Et vous savez, parfois, nous, on peut fermer les yeux face à la réalité, mais le goût, c'est quoi ? Alors, comment faire ? Jésus dira à Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, il répondra à un homme, il dit, si tu veux une transformation dans ta vie, tu dois naître de nouveau. Jésus dira, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et cette réponse, Jésus, il la donne à un homme qui avait l'habitude de lire, d'étudier, même de commenter la parole de Dieu. Un homme qui connaissait certainement tous les textes des prophéties, mais qui, à quelque part, il lui manquait une révélation. On peut avoir une connaissance, je dirais, littéraire, on peut avoir de la connaissance tout court. Mais tant qu'on n'a pas reçu une révélation dans notre vie, il y a quelque chose qui manque. Et Jésus dira à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Alors Nicodème, scientifique, il dit, mais Jésus, allez, comment je peux retourner dans le sein maternel? T'as vu la taille? Imagine maman, la pauvre. Il dit, mais Nicodème, tu es docteur de la loi et tu sais pas ça? Il faut naître d'esprit. Il faut un changement radical. Alors j'imagine que Nicodème, cette nuit-là où il était venu interroger Jésus, où il était venu avec des super propos, « Seigneur, on sait que tu es un bon enseignant, on sait que... » Il a dû repartir en se grattant la tête. On disait, mais comment je vais naître de nouveau? Comment je vais pouvoir faire? Mais en réalité, la seule chose que tu as à faire, Nicodème, c'est à te donner au Seigneur. C'est lui qui va te faire renaître. C'est lui qui va transformer les choses pour que tu sois une nouvelle créature. Galates chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. On sait, la parole de Dieu nous enseigne qu'il était question de circoncision pour les Juifs. Mais s'ils étaient circoncis, ils étaient finalement les fils d'Abraham. Mais Jésus, ce qu'il est en train de nous dire, la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit, c'est que ce n'est pas question de porter une marque physique extérieure. C'est de la circoncision du cœur. Est-ce qu'on accepte que Dieu coupe ce qui ne va pas dans notre vie pour que nous soyons vraiment une nouvelle créature ? Il dit la parole de Dieu, pour ceux qui sont en Christ, sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Transformation. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui doivent se dire, ah, si ça pouvait arriver à mon mari ou à ma femme, qu'il soit tout nouveau, changé. Parce que ce modèle, il y a des défauts. Non ? Ou peut-être vous le dites à vous-même. Moi, je parle pour moi, je ne me permets pas. Hein, j'ai dit, Seigneur, si je pouvais changer de modèle. Est-ce que ça vous est arrivé de dire, ah, si je pouvais changer ça dans ma vie ? Il y a quelque temps, je regardais un reportage d'une jeune femme qui voulait changer plein de choses dans sa vie. Elle faisait opération sur opération. Changer le nez, les oreilles, la bouche. Elle était toujours insatisfaite. Parce que le véritable changement, ce n'est pas une question extérieure. Tant qu'on ne change pas dans notre cœur, l'extérieur ne pourra pas changer. Oui, la coiffure peut-être. Hein ? Maintenant, c'est l'été, on coupe court. Après, en hiver, on laisse... Oui, ceux qui peuvent, je comprends, Marcelin. En hiver, on laisse pousser, histoire de se protéger du froid. Hein ? Toujours ceux qui peuvent. Mais ça ne change en rien dans notre cœur. Parce qu'on peut mettre un habit, mais l'habit ne fait pas... La réalité, c'est la question du cœur. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. C'est une prophétie. Ézéchiel 36, 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ah ! Vous savez, quand je suis venu au Seigneur personnellement, déjà c'était quelque chose d'incroyable, mais c'était le départ, le démarrage. Et à fur et à mesure, le Seigneur me montrait ce qui n'allait pas. Alors, ce n'est pas qu'il me parlait tous les jours, hein, qu'on se comprenne bien, mais je voyais quels étaient mes problèmes. Mon premier problème, c'était mon cœur. J'avais, oui, dit au Seigneur, je t'aime. Déjà, c'était super, mais mon cœur était en plein de conflits parce qu'il était resté dur. Et moi, je pensais que le Seigneur aurait adouci mon cœur. Vous savez comment faire avec la pâte quand elle est dure ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez de l'eau et vous la retravaillez. Hein ? Mais quand la pâte est devenue plus que dure, vous avez beau mettre de l'eau, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut recommencer à zéro. Et ce que le Seigneur nous propose de faire, c'est véritablement de commencer à zéro. De commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Quand la parole de Dieu nous dit que les choses anciennes sont passées, c'est que Dieu est en train de jeter nos péchés loin de nous. On a l'occasion de recommencer à zéro. C'est pas mieux ? Au lieu d'essayer de mettre des roustines, au lieu d'essayer de faire des choses dans notre vie, vous savez, parfois on est sûr, on avance dans notre vie. L'autre jour, mon fils, il me fait « Papa, j'ai un problème, j'ai les freins qui ne marchent pas dans le vélo. Quand je pédale, tu sais, ça se tord. » Je vais vérifier. Et j'ai dit, mon fils, ce n'est pas les freins. Tu roules avec un seul boulon. Tu as perdu un boulon. Parfois, il y a des choses qu'on perd dans notre parcours. Et après, c'est normal que nous, on essaye d'avancer. Mais ça ne peut plus avancer comme avant. On ne peut plus aller de la bonne manière en ligne droite. Parce qu'on a besoin d'une réelle transformation. Et là, le Seigneur nous propose de changer le cœur, mais aussi de mettre en nous un esprit nouveau. Une pensée nouvelle, une manière différente d'œuvrer, d'agir. Une manière différente aussi de réfléchir et de voir les autres. N'est-ce pas ? Il est question aussi d'une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 9, verset 15. Hébreux 9, 15 dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Alors je continuais à penser et à réfléchir. Je me disais, Seigneur, tu veux nous donner, tu veux faire toute chose nouvelle dans notre vie. C'est beau, hein ? D'ailleurs, vous savez ce qu'il dit en 2 Pierre chapitre 2, verset 13, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Ah là, ça sera plus facile. Parce que pour l'instant, ce n'est pas évident. Imaginez, vous vous levez le matin, vous dites aujourd'hui, je vais être le plus gentil au monde. Vous vous levez, vous ouvrez les fenêtres, vous voyez le soleil. Oh, magnifique. Vous voulez être tellement gentil, vous préparez le petit déjeuner à votre épouse. Vous la réveillez avec douceur, une fleur à la main. Hein ? Vous faites tous vos efforts, toute la journée comme ça, vous préparez même le repas de midi. Et ce soir, resto. Ah, je vais être le plus gentil au monde, je fais tous les efforts. Et là, vous êtes en voiture, vous dites, oh, il est 19h30, jusque-là, tout a bien allé. Vous arrivez à un feu rouge, c'est vert pour vous, vous voulez avancer, quelqu'un vous coupe la route. Et là, vous freinez, vous mettez en colère. Aïe, j'ai tout gâché. Ah Seigneur, si seulement il n'y avait plus d'injustice sur la terre, ça serait plus facile pour moi. Seigneur, si tu faisais disparaître tout ce qui me dérange dans la vie, ça serait plus facile pour moi. Seigneur, si tu enlevais tout ce qui pourrait m'amener à pécher, Seigneur, ça serait plus facile pour moi. Seigneur, si seulement tu pouvais... Et vous savez, au bout, on fait le vide complet. Mais la réalité, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui doit se transformer dans notre cœur. Alors, on va faire une dernière lecture. Romains chapitre 6. Parce qu'il est question pour nous comment vivre cette transformation dans notre vie. Comment vivre cette nouvelle naissance. Comment véritablement être prêt à nouveaux cieux, nouvelle terre. Parce que vous savez, si on n'aura pas d'accès aux nouveaux cieux, nouvelle terre, si notre vie n'est pas changée. Parce qu'autrement, les défauts qu'on reproche et qu'on regrette aujourd'hui, ben c'est nous qui allons les ramener. Non ? Si je ne fais pas attention, je risque moi-même d'être celui qui ramène à nouveau, excusez-moi, le virus, le problème. Hein ? Je peux avoir tout changé, mais si moi je ne suis pas changé, ben je risque à nouveau d'introduire quelque chose qui n'est pas bon. Donc, certes, il doit y avoir un changement extérieur, mais il doit y avoir avant tout un changement intérieur. Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donnez-vous vous-même à Dieu. Quand Jésus est allé à la croix, il s'est substitué à nous. C'était notre place à la croix. C'était nos péchés. Ce n'était pas les siens. Il n'avait fait aucun péché, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec ça? Si ce n'est pas le cas, on reprend les Écritures. Et vous allez voir, Jésus n'a commis aucun péché. Ce n'était pas lui qui devait être condamné à mort à cause du péché. Et pourtant, il a pris le poids du péché sur ses épaules et s'est substitué à nous. C'était le principe même du sacrifice. Le sacrifice qui était offert pour les péchés, c'était amener un animal qui n'avait pas commis d'erreur, sur laquelle la personne qui avait péché posait ses mains sur sa tête pour, quelque part, lui dire « Maintenant, mes péchés, je te les charge, toi tu payes et moi je suis purifié. » Malheureusement, le cœur de l'homme a compris qu'une fois que ça s'était fait, il pouvait recommencer. Alors que la lettre aux Romains nous explique que, puisque nous nous donnons à Jésus-Christ, nous ne nous appartenons plus. Et je dois accepter que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Jésus ferait des péchés? Il ne les a pas fait avant, il ne le fera pas aujourd'hui. Et si alors Christ vit en moi? Ça veut dire aussi que j'ai été libéré pleinement de tout péché et j'ai besoin de le réaliser dans ma vie. J'ai besoin de dire au Seigneur, « Seigneur, dans cette parole que tu as dit à la croix, Père, tout est accompli, cette parole, elle me concerne. » Parce que dans tout cet accompli, ça veut dire tous mes péchés ont été effacés une fois pour Amen. Seigneur, dans tout cet accompli, ça veut dire aussi que ma maladie a été prise à la croix. Seigneur, alors pour moi, la guérison. Seigneur, si j'étais enchaîné, Seigneur, c'est la délivrance. Là aussi, tout est accompli, Seigneur. Si j'étais esclave de la cigarette ou d'autre chose, Seigneur, peu importe ce qui a pu lier ma vie, la drogue ou autre chose, Seigneur, à partir de là, tout est accompli dans ma vie. Mais il faut que je le réalise et il faut que je laisse aussi toute la place au Seigneur dans ma vie. Alors, encore une fois, ce n'est pas nous qui allons pouvoir changer. Mais il faut qu'on accepte de nous donner nous-mêmes à Dieu pour qu'il nous change. Alors, qui a envie de se laisser changer par Dieu? Qui a envie de dire finalement, Seigneur, Seigneur, je ne veux plus essayer par moi-même parce que les résultats ne sont pas top. Certes, il y a des choses qui ont changé dans notre vie. Mais Seigneur, j'ai besoin d'aller plus loin. Seigneur, je veux aller plus loin. Seigneur, ma vie est en chantier. Et je désire que toi, tu sois le maître d'œuvre dans ma vie. Alors je me donne à toi, Seigneur, je te fais confiance. On va fermer nos yeux. Et peut-être que quelqu'un cet après-midi, ce soir, aimerait dire, Seigneur, «